Sud Radio, il est 4h. Parlons vrai. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Charles Sapin et Gilles Gressani. Charles Sapin est journaliste et essayiste. Il est l'auteur de « Les moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste ». C'est aux éditions du Cerf. Et Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent. Il a coordonné le livre Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, qui vient de paraître chez Gallimard. Les mouvements nationalistes vont-ils s'emparer du pouvoir en Europe? L'immigration est-elle leur principal carburant? Sont-ils en train de se normaliser? Sont-ils unis ou divisés? Jusqu'où ira leur progression? Le phénomène est-il seulement européen ou mondial? Tout de suite, les réponses de Charles Sapin et Gilles Gressani en toute vérité.
En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Charles Sapin, Gilles Gressani, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir sur Sud Radio ce matin. Nous allons discuter pendant une heure notamment des élections européennes et plus largement du contexte mondial avec cette montée des nationalismes ou des populistes. D'ailleurs, je ne sais pas comment il faut les appeler, vous nous direz cela. J'aimerais tout de même commencer peut-être avec une question d'actualité plus franco-française. D'abord, une question pour vous, Charles Sapin, puisque vous êtes journaliste, vous travaillez au Point, hein, vous avez travaillé également au Figaro, vous avez suivi longtemps les partis de droite, et notamment de la droite, et le Rassemblement National qui est très largement en tête hein, des européennes, mais aussi, il y a eu un sondage très récent, un sondage Sud Radio Fiducial Le Figaro, d'ailleurs, montrant que pour la première fois, Marine Le Pen était donné vainqueur au deuxième tour selon toutes les configurations. Est-ce que vous y croyez, tout simplement? Est-ce que c'est une photographie à l'instant T ou est-ce que c'est un sondage qui indique une forme de basculement pour le Rassemblement National?
Alors évidemment, je vais répéter ce que répètent souvent les sondeurs, bien que je n'en sois pas un. Un sondage est une photographie à un instant T. Il se trouve que, en effet, on voit une dynamique depuis les dernières législatives. Marine Le Pen profite de sondages très éloquents. Elle bat tous ses propres records, que ce soit dans les baromètres d'opinion ou les sondages de popularité. Il y a quand même une limite, quelque chose qu'il faudrait tempérer, puisque l'élection présidentielle est dans 3 ans. Et finalement, Marine Le Pen continue de capitaliser sur quelque chose qui est un de ses principaux moteurs, c'est l'anti-macronisme. C'est quelque chose de très important et qu'on voit depuis ces 7 dernières années, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Or, lors de la prochaine présidentielle, constitution oblige, Emmanuel Macron ne sera plus candidat, ne sera pas candidat.
Certes, mais elle est testée pas face à Emmanuel Macron, là. Elle est testée face à Édouard Philippe, face à Gabriel Attal. Est-ce que c'est pas finalement un avantage pour Marine Le Pen? Le bloc central n'a plus de candidat naturel, pour l'instant en tout cas.
Pour l'instant, le problème, c'est que quand vous regardez les sondages d'opinion, même si Emmanuel Macron, et c'est à peu près dans la tête d'une partie de la population, qui ne sera pas candidat à sa réélection, l'anti-macronisme marche encore à plein. Et est encore un carburant pour Marine Le Pen. Toute la question est de savoir quel sera son potentiel électoral face à des candidats qui seront certes issus du macronisme, issus du camp de l'actuel président de la République, mais qui vont mettre en scène une rupture et qui se revendiqueront tous d'une certaine forme de renouveau. La donne va finalement évoluer. Alors, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen est en dynamique. Elle l'est depuis 2012. Maintenant, il faudra voir dans cette nouvelle donne-là, sans Emmanuel Macron, avec qui elle a formé une forme de duel duo.
C'était le thème de votre précédent livre, le tango des fossoyeurs. C'était bien ça, hein, le titre.
Et
c'était comment il formait une forme de duo Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Gilles Gressani, est-ce que justement moment, est-ce que c'est un tango des fourchoyeurs qui va peut-être s'arrêter prochainement, ou est-ce qu'il y a un mouvement de fond avec finalement un vrai clivage idéologique entre un président mondialiste ou progressiste, je ne sais pas comment il faut le définir, mais pas seulement un président, si vous voulez, des élites en place depuis de longues années qui partagent cette idéologie, et finalement un courant qui est aujourd'hui incarné par Marine Le Pen, qui serait national populiste.
Mais si on regarde avec un peu d'attention ce qui est en train de se passer de cette partie-là de l'espace politique en France et en Europe, mais en France c'est un bon cas d'étude, c'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment un bloc national populiste aussi explicite que ça. Au fond, est-ce que Marine Le Pen veut sortir de l'euro? Est-ce qu'elle veut sortir de l'Union Européenne? Est-ce qu'aujourd'hui les mots qu'elle utilise sont si différents que les mots que pourrait utiliser un parti de centre-droite un peu plus classique qui puisse aussi attirer une partie des élites administratives d'un État?
D'ailleurs, pardon, je vais vous laisser finir, mais est-ce que c'est Marine Le Pen qui s'est recentrée, ou est-ce que ce sont les partis de centre-droite qui sont devenus aussi plus souverainistes, plus eurosceptiques?
Ce qui est absolument évident, c'est que le RN, historiquement, voulait sortir de l'euro. Et aujourd'hui, en tout cas, explicitement, il ne veut plus sortir de l'euro. Donc ça, en fait, moi, je serais assez attentif sur l'idée qu'il y ait des blocs aussi clairement définis. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la politique est dans le chaos, parce que le monde est cassé. Et dans un monde cassé, les règles changent, l'échiquier change, tout change. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on a tendance à regarder toujours du côté de l'offre politique, les choses qui sont déjà là. En fait, c'est la demande se réarticule. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir, effectivement, en quelques années, ce recentrement des institutions vers des positions qui sont beaucoup plus à droite. Enfin, on peut y penser, par exemple, il y a 5 ans, si vous aviez dit que la migration et les frontières étaient le cœur de l'action, des libéraux en Europe, vous auriez dit, mais vous êtes fous, aujourd'hui c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez le bloc que vous définissez national populiste, où en fait, on retrouve très très peu de choses aujourd'hui de national et des populistes. On trouve sur des questions d'identité, oui, sans doute, mais sur les questions structurelles, de politique économique, de positionnement de la France dans l'échiquier mondial, dans la mondialisation de l'Union européenne, moi je ne vois pas vraiment de rupture, en tout cas pas de rupture assumée.
C'est intéressant ce que vous dites, Gilles Cassani. On va parler effectivement du livre que vous avez coordonné avec le Grand Continent, une revue que vous dirigez, le livre préfacé par Giuliano D'Ampoli, Portrait d'un monde cassé. Donc on va élargir effectivement la focale, parce que c'est un phénomène européen et même mondial, et un phénomène justement qu'on peine à définir. Vous nous dites finalement les nationaux populistes sont de moins en moins nationalistes et de moins en moins populistes. On les appelait avant extrême droite. Comment est-ce qu'on les définit finalement? Ce que vous nous dites, c'est qu'ils se normalisent, Gilles Gretzani. Où est la menace si finalement ce sont presque des partis de centre-droit? C'est ce que vous nous expliquez. Donc, vous les définiriez comment, vous, du coup?
Déjà, je pense qu'il ne faut pas utiliser le même mot pour tout le monde. Et c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on met dans le même bac, en fait, des choses qui sont aussi différentes. Corbyn, Mélanie, Bardella, et le PiS polonais. Donc, c'est vraiment des choses qui sont différentes. Et évidemment, on a toujours la tentation de coller une étiquette une fois pour toutes, mais ça ne marche pas. Moi, je dirais qu'en Europe, il y a un processus structurel qui est à peu près, disons qu'il y a aujourd'hui l'inertie profonde du continent. Qui est que ceux qui ont l'euro, en fait, finissent par être très attachés à l'euro. Et ça, c'est une espèce de paradoxe bizarre, c'est que c'est sans doute pas lié par des questions de haute politique monétaire. Je pense pas que les gens se disent que le cadre macroéconomique est le bon.
Vous pensez que c'est un attachement sentimental ou un enchaînement d'une certaine manière, parce qu'on craint le chaos si on sortait de l'euro?
Il y a clairement ça, mais en fait, si vous regardez au fond de ça, quel est le raisonnement? Pourquoi, en fait, on est attaché à l'euro quand on est des petits entrepreneurs, quand on est des fonctionnaires, quand on est des personnes qui, en fait, souvent, vous pourriez être tenté pour voter, pour casser la table, pour faire exploser la table. Pourquoi c'est l'euro qui... Parce que je pense qu'il y a une représentation qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de définir le nationalisme sur une échelle étroitement nationale, qui est de dire, au fond, l'euro nous protège plus que le franc. L'euro nous protège plus que la lire, si vous êtes italien. Et quand vous dites ça, vous êtes déjà en train de changer, en fait, le fonctionnement de votre imaginaire de la souveraineté. En fait, vous dites déjà, en fait, peut-être que l'État auquel j'appartiens, la nation dans laquelle je suis investi, eh bien, elle est peut-être pas assez forte aujourd'hui pour résister au choc sino-américain de la mondialisation, du digital, etc. Et donc, il y a déjà quelque chose qui structure, en fait, qui vous voyez, c'est la demande qui structure l'offre. En fait, pourquoi aujourd'hui, la plupart des partis qui étaient à la droite du Parti Populaire Européen sont, ne peut plus dire, on est des partis du Frexit? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la demande n'est plus là. Il y a encore aujourd'hui des partis de Frexit en Italie, en France, en Italie lors des dernières élections nationales, le parti de l'Italexit a pris moins de 3%. Ça, c'est à peu près ce que
c'est l'équivalent de Florian Philippot en
voilà,
France. En
ça ne pèse plus grand chose. Donc la demande a changé et donc l'offre change sur l'article. Mais évidemment, quand vous changez de fusil d'épaule d'une façon aussi forte, c'est très ambigu ce qui se passe. C'est pour ça qu'en fait, c'est difficile d'utiliser le même mot. Et donc vous avez des propositions très différentes. Vous avez celle de Viktor Orban en Hongrie, qui n'a pas l'euro, mais qui se projette dans l'espace continental, parce qu'il assume en fait d'être une petite nation qui a besoin de l'espace continental pour pouvoir prospérer. Vous avez la position que moi je définirais de techno-souverainiste de Giorgia Meloni en Italie, qui en fait consiste à être intégré beaucoup plus des contraintes institutionnelles pour pouvoir par la suite jouer dans une logique d'identité. Et vous avez la position qui est un peu dans l'entre-deux du Rassemblement National d'aujourd'hui, qui n'assume plus du tout de sortir et de casser les règles au niveau européen, mais qui en même temps aujourd'hui est encore très ambigu sur quel est le vrai projet à long terme, où est-ce qu'elle veut porter la France et l'Europe dans les prochains 10 ans.
Charles Sapin, dans les moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste, vous n'utilisez plus, vous non plus, le terme extrême droite. Vous expliquez d'ailleurs qu'il ne faut plus l'utiliser. Comment vous définissez ces partis? Alors vous expliquez aussi qu'il y a des différences, mais si vous deviez les englober dans un même terme, ce serait nationaliste, puisque vous parlez quand même de plonger dans une Europe nationaliste.
Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'il ne faut pas utiliser un terme ou juste... À titre personnel, je n'emploie pas le terme extrême droite et il m'a semblé assez naturel et normal de l'expliquer dans ce livre pour qui se poserait la question de pourquoi. Ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que je couvre les forces nationalistes en France et maintenant un peu en Europe et j'ai toujours été ennuyé. Je trouve ce terme d'extrême droite inconfortable. Pourquoi ? Parce que il est subjectif. Selon que vous êtes à gauche, à droite, au centre de l'échiquier politique, ce terme, si vous l'employez, ne va pas englober la même réalité. Or, quand on est journaliste, et vous le savez très bien, Alexandre, on a besoin que notre lecteur, notre auditeur comprenne tout de suite ce qu'on essaye de dire sans qu'il ait besoin d'aller chercher la fiche Wikipédia du journaliste pour comprendre. Bon. Le terme extrême droite est un terme valise et il a un autre souci, c'est que il est employé pour parler de choses extrêmement différentes. On parle du terme extrême droite pour parler des totalitarismes génocidaires du 20e siècle. Très bien, mais on l'emploie aussi pour parler de forces politiques qui respectent le jeu démocratique, qui respectent l'issue des urnes et qui s'inscrivent dans les institutions républicaines. Et on l'emploie aussi pour des groupuscules violents qui, au contraire, refusent le jeu électoral et veulent faire tomber les institutions républicaines. À mon sens, c'est très compliqué d'avoir un même terme pour employer des réalités très différentes.
Charles Sapin, merci Gilles Gressanet. On continue hein, la discussion, je suis désolé Charles, je vous ai interrompu, mais de toute manière, on continue à parler de cette montée des populismes en Europe, de ce monde cassé après une courte pause sur Sud Radio, en toute vérité.
Sud Radio Clermont-Ferrand,
88.1
Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour en toute vérité avec Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent, qui est aussi coordinateur d'un livre, Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections. C'est chez Gallimard, c'est préfacé par Giuliano D'Ampoli. Et nous sommes également avec Charles Sapin, auteur de Les moissons de la colère, plongée dans l'Europe nationaliste, c'est aux éditions du CERF et nous parlons de ces élections européennes mais plus généralement de la recomposition politique mondiale avec la montée de nouveaux partis quoi, qui apparaissent assez différents des partis traditionnels de centre-droit et de centre-gauche et qu'on peine peut-être à définir. Avant la pause, Charles Sapin, vous nous disiez que le terme d'extrême-droite, vous préfériez ne pas l'employer parce que quand on parle d'extrême-droite, on pense aux régimes totalitaires qui ont commis les origine aussi, oui. C'est un terme flou. Donc on peut penser au régime totalitaire, on peut penser à des groupuscules violents. Or vous suivez en tant que journaliste, puisque vous êtes journaliste au Point, des partis effectivement qui participent aux élections, qui respectent le jeu démocratique, qui n'utilisent pas la violence. Néanmoins, comment est-ce que vous les qualifieriez ? Est-ce que le terme populiste est lui aussi trop flou ?
Non, le terme populiste n'est pas flou, mais encore une fois, il recouvre une réalité qui ne permet pas d'englober la totalité des forces que moi j'appelle nationalistes. Alors, c'est vrai qu'il y a un terme qui est ancien des sciences politiques qui permet de parler de ces forces, qui est le nationalisme. C'est un terme qui permet de rattacher à presque deux siècles de filiation historique et idéologique. En sillonnant l'Europe pendant un peu plus d'un an, je suis allé à la rencontre et à la recherche de ces forces nationalistes. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ça m'a amené à distinguer entre deux types de forces nationalistes. D'une part, les nationaux populistes, pour reprendre ce terme, que nous, on connaît bien en France, parce que Marine Le Pen et le Rassemblement National est l'une des têtes d'affiche. Ces forces nationalistes ont pour substrat idéologique cette opposition entre un peuple et une élite. C'est vraiment la base. Ils ont souvent une ambition de dépassement du clivage entre droite et gauche, et les questions sociales sont plus prégnantes que les questions sociétales. Ce qui est très différent, en fait, avec l'autre grande famille des nationalistes, qui sont les nationaux conservateurs, dont Giorgia Meloni, en Italie, la chef de file incontestée depuis sa victoire électorale en 2022, si vous voulez, qui... Elle n'a pas cet anti-élitisme, bien au contraire, qui se revendique de droite et pour qui le sociétal a une importance capitale puisqu'elle porte une vision civilisationnelle et son opposition à toute révolution anthropologique ou sociétale radicale, c'est quelque chose de très profond dans son ADN. Et c'est intéressant pour finalement résumer cette opposition entre nationaux populistes et nationaux conservateurs. Il suffit de comparer Marine Le Pen et Giorgia Meloni. Qui n'ont rien à voir.
Est-ce que la vraie différence entre les deux, Charles Sapin, pardonnez-moi, c'est pas tout simplement le fait qu'il y en a une qui est au pouvoir et l'autre pas? Comme nous le disait Gilles Gretzani, Marine Le Pen a déjà beaucoup évolué. Elle voulait sortir de l'euro il y a quelques années, c'est plus le cas. Depuis qu'elle est à l'Assemblée nationale, on voit qu'elle s'est notabilisée. Certes, elle en fait peut-être moins sur le wokisme que Giorgia Meloni, mais on la voit mal faire de grandes réformes sociétales pour aller dans le sens de toutes les idéologies de la déconstruction, Marine Le Pen. Donc, est-ce que finalement ces clivages-là ne sont pas exacerbés, d'une part parce que le fait qu'on est en période d'élection et qu'elles vont être concurrentes dans ces élections, et d'autre part, voilà, par le fait que quand on est hors du pouvoir, on a tendance à être plus radical que quand on occupe le pouvoir. Jean-Jacques Meloni était elle-même très radicale. Elle avait refusé, c'est ce qui lui avait permis de tuer d'une certaine manière son principal concurrent, qui était Salvini. Elle avait refusé d'entrer au gouvernement et de soutenir le gouvernement technique italien.
Alors, vous avez raison, mais dans ce que vous venez de dire, il y a deux choses. Il y a des différences de fond entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, quelle que soit leur situation, leur position particulière. Et si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, il y aurait des différences qui continueraient d'exister avec Giorgia Meloni. Pour une raison simple, Marine Le Pen dit ne pas savoir ce qu'est la droite. Giorgia Meloni se revendique de la droite. Marine Le Pen assume un mépris total des sujets sociétaux, alors que Giorgia Meloni se revendique et se pose en disciple de Roger Scruton, un conservateur bien connu. Marine Le Pen, c'est aussi son héritage populiste, un passé de russophilie. Son parti a eu des contacts avec Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Giorgia Meloni, absolument pas. C'est une atlantiste et en Europe, s'affiche comme l'une des premiers soutiens à l'Ukraine. En revanche, ce que vous dites, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un phénomène que a très bien décrit Giovanni Orsina, qui est un politologue italien et qu'on lit régulièrement dans l'excellente revue Grand Continent. Il a ce concept que je trouve très parlant de romanisation des barbares. C'est-à-dire que ces forces nationalistes, plus elles s'approchent du pouvoir et a fortiori quand elles y sont obligées d'abandonner des pans les plus radicaux de leur programme. Pourquoi ? Pour finalement faire primer le pragmatisme pour avoir du résultat plutôt que l'absolutisme idéologique. Il y a un moment, quand vous voulez le pouvoir, quand vous y êtes, si vous voulez y rester, il faut avoir des résultats aux yeux de vos électeurs. Et pour ça, cela impose à certaines concessions et à un alignement de vos positions par rapport à la demande politique.
Gilles Gressani, vous nous décrivez effectivement un monde chaotique, un monde cassé. Est-ce que le camp populiste ou national populiste, on ne sait pas trop comment l'appeler, est réellement divisé entre conservateurs et justement ceux qui sont plus dans une logique purement populiste? Est-ce que ces divisions font que finalement ils pourront jamais accéder durablement au pouvoir, ou est-ce que tout simplement on est peut-être dans une phase 2, parce que ça fait un moment qu'on parle d'une montée des populistes, certains ont gouverné, Trump, Boris Johnson notamment, Viktor Orban gouverne depuis très très longtemps. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase 2 après la prise du pouvoir, un peu chaotique? Peut-être que les populistes de manière générale cherchent finalement le bon curseur pour pouvoir gouverner, mais cette fois-ci dans la durée.
Bah, disons qu'il y a aujourd'hui une bifurcation très claire. Il y a des forces qui veulent s'asseoir à la table pour changer les règles. Il y a des forces qui veulent faire sauter la table. Et c'est vrai que le cas Meloni est très intéressant là-dessus. Peut-être pas forcément parce que c'est une barbare romanisée. Un des points essentiels de Meloni, moi je suis italien, donc je suis italien du Nord, donc c'est quelque chose que je perçois constamment à l'oreille, c'est son accent romain. C'est une vraie romaine. Et en fait, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de président du Conseil vraiment romain dans l'histoire de la République italienne. C'est assez rare. Et surtout dans la dernière décennie, qui est la décennie populiste italienne, où en fait on a vu ce que vous êtes en train d'écrire, des forces très différentes qui vont de la Ligue de Salvini jusqu'aux 5 étoiles de Pepe Grillo, la forme hyper technocratique d'un Mario Monti ou d'un Mario Draghi, jusqu'à la forme un peu de populisme de centre d'un Matteo Renzi, donc des formes de leadership extrêmement différentes, qui ont essayé de faire toute la même chose, de venir de l'extérieur de Rome pour changer tout. Donc ils sont arrivés dans un contexte qui était particulier, de crise économique, de crise d'institution, avec un mandat populaire très fort, et ils ont promis de tout changer. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que systématiquement, ce qui leur est arrivé, c'est que au bout de 6 mois, parfois 1 an et demi maximum, ils ont perdu tout leur force politique, et en fait, ils ont été englobés, mangés par le marécage romain, et ils sont restés parfois d'ailleurs sur place avec des rôles qui sont aujourd'hui très petits. Le Renzi a un petit parti, Monti est toujours sénateur, mais ils n'ont plus un rôle principal et central dans la sphère. Et Meloni, en fait, elle est très différente parce que elle est romaine, elle fait la politique à Rome depuis qu'elle est adolescente, depuis qu'elle a 17 ans. Elle a eu beaucoup de rôles dans la vie politique. Elle était la plus jeune vice-présidente de l'Assemblée nationale italienne. Grosse différence avec Marine Le Pen. Elle était ministre, jeune ministre, sans portefeuille, mais quand même, elle a aussi très grosse différence avec Marine Le Pen. Meloni est une personne qui les Italiens de pouvoir ont dîné depuis et dînent depuis 20 ans. C'est pas du tout le cas pour Marine Le Pen. Donc en fait, elle est pas vraiment, elle joue pas forcément le rôle de la barbare romanisée.
C'est plutôt c'est le contraire. C'est une pure romaine.
C'est plutôt le contraire.
C'est une romaine barbarisée. Alors
c'est en fait quelqu'un qui joue de la force. En fait, elle est assise à la table, et à tout moment, elle peut dire si c'est pas moi qui négocie, c'est ceux qui viennent derrière. Et c'est ça sa force. En fait, sa stabilité, c'est qu'elle promet de la stabilité. Elle arrive d'ailleurs, après 10 ans très turbulents, au fond, sans promettre grand-chose. Vous avez toujours cette différentielle. Si vous promettez énormément, en fait, à la fin, si vous avez maintenu très peu, les gens sont fâchés. Si vous promettez très peu, ben, c'est plus simple de tenir. Donc l'Italie a une forme de croissance à peu près potable. On verra si ça se dure. Et j'ai l'impression, effectivement, qu'elle amène de la stabilité dans un ordre assez chaotique. Et donc là, c'est là, je pense qu'il y a un point assez essentiel. Aujourd'hui, il y a deux types de droite à la droite du Parti populaire, ceux qui veulent, et même d'ailleurs de la gauche, hein, ceux qui veulent accentuer le chaos et qui ont une théorie du changement qui passe par le fait de proposer, au fond, comme une espèce d'effet catalyseur de faire exploser la machine, ou ceux qui disent, en revanche, nous sommes le joint qui permet d'utiliser l'énergie qui se retrouve à l'extérieur pour essayer de la faire évoluer de l'intérieur.
Je vous entends. Effectivement, l'approche de Meloni n'apparaît peut-être plus subtile que celle d'autres leaders, mais est-ce que finalement, il y a eu un risque de chaos un jour ou pas. Enfin, effectivement, la présidence chaotique, ça a été plutôt celle de Donald Trump, mais les États-Unis ont eu aussi un taux record de croissance, un chômage extrêmement bas, pas de guerre. Alors, j'entends la musique. On poursuivra donc cette conversation après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à en parler. Est-ce qu'on surestime pas le risque de chaos et finalement, est-ce que la normalisation n'était pas annoncée depuis le début? À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité.
Sud Radio Biarritz.
103.9.
Sud Radio.
Je suis le soleil et tu es l'ombre. C'est vrai qu'on ne se ressemble pas. Mes magies blanches et mes magies sombres. Sinon les romans n'existent pas. Qui touche au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. T'es les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. Du miel, du sel en bombe. Le feu qui brûle en moi, mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi. À l'amour, la vie, la tombe, jamais on se quittera. Mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi.
Toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio. En toute vérité, on parle de la montée des populismes en Europe avec Charles Sapin et Gilles Gressani. Charles Sapin, auteur de Les Moissons de la colère, plongée dans l'Europe nationaliste, c'est aux éditions du CERF. Et Gilles Gressani, directeur du Grand Continent et coordinateur de ce livre, Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections. L'une des thèses de votre livre, c'est qu'on est dans un monde effectivement hyper chaotique, Gilles Gressani. Et pas seulement d'ailleurs en Europe, il va y avoir des élections, je ne sais plus d'ailleurs le nombre, mais c'est un nombre record d'élections cette année partout dans le monde, sur fond de campagne permanente, sur fond de positions en apparence très 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 radicales. Est-ce que selon vous, les nationaux populistes sont la cause de ce chaos ou plutôt la conséquence, tout simplement, voire ceux qui pourraient remettre de l'ordre à alors que le système, je ne dis pas ça de manière populiste, mais enfin le régime qu'on a connu pendant ces 40 dernières années semble être un régime à bout de souffle finalement, n'ayant plus les solutions pour régler les problèmes actuels.
Il y a clairement une forme d'imbrication, ça c'est évident. Je dirais que le cas intéressant, on en parlait juste avant, c'est le cas Trump. Parce qu'effectivement, quand on regarde la première présidence Trump, on se rend compte qu'en réalité, mis à part des points assez évidents, ça a été au fond une présidence qui s'est inscrite dans une continuité par rapport à ce que peut être un président des États-Unis, avec d'ailleurs une action internationale qui peut, sur certains points très précis, on peut penser par exemple au Moyen-Orient, être en réalité presque plus positive que celle de d'autres présidents plus normaux. Donc, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que un Trump bis serait plus dangereux, plus inquiétant, plus chaotique? Et en fait, on a proposé dans le volume de la revue papier qui sort chez Gallimard, un très grand historien conservateur qui s'appelle Niall Ferguson, qui est d'ailleurs une référence souvent pour les nationaux conservateurs, qui a beaucoup conseillé des personnes assez centrales dans ce monde-là, dans ces sphères-là, de nous parler en fait de sa connaissance interne du système Trump, de la campagne telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et lui, il dit deux choses. La première, c'est que on ne peut pas vraiment comparer Trump 1 de Trump 2 pour une raison très simple, c'est que le Trump 1, c'était un Trump qui était quand même malgré tout porté parce que Trump lui-même appelait le Deep State. En fait, il y avait des généraux qui l'accompagnaient, il y avait des...
L'État profond américain. Ouais.
Voilà, il y avait une partie de l'État qui était présente dès le premier jour. Et d'ailleurs, les grandes crises de la présidence Trump ont été des crises et des clashs avec des membres de cette continuité-là. Et or, aujourd'hui, dans la campagne, on ne voit pas du tout ces figures-là. Elles ne sont presque pas présentes. Et donc, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose qui soit plus... J'utilise ce mot-là, disruptif de l'espace institutionnel. Deuxième point, contrairement au premier mandat, Trump a eu le temps pour préparer un plan pour essayer de changer les choses. Et sur deux points, en fait, ce plan est particulièrement dur. On en a traduit d'ailleurs des extraits dans le Grand Continent. Il passe en bonne partie par une purge. En fait, Trump sent qu'il n'a pas pu tout de suite prendre le contrôle de la machine de l'État américain. Et donc, il veut pouvoir se débarrasser d'une partie du département de la justice, une partie des hauts fonctionnaires, justement pour avoir main libre. Main libre aussi, éventuellement, pour pouvoir rester plus longtemps au pouvoir s'il devait perdre une prochaine élection, etc. Deuxième point, qui est assez intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'au fond, Trump 1 intervenait dans un contexte dans lequel, au fond, d'un point de vue géopolitique, on était dans un monde beaucoup moins cassé. On avait des fractures, on avait des formes de conflits plus ou moins ouverts.
Pas de guerre en Ukraine, pas de conflit, le conflit israélo-palestinien gelé.
Pas déclenché à ce
niveau-là.
Est-ce
que c'était à mettre à son crédit aussi?
C'est difficile de... Voilà, c'est le Moyen-Orient, c'est un espace assez complexe, donc on sait que tout est peu directionnel, mais on a vu effectivement dans son action la capacité de la normalisation, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, de la relation entre les pays arabes et Israël a été en bonne partie portée effectivement par les pactes d'Abraham dont il était un des principaux promoteurs, et d'ailleurs il y a une forme de continuité paradoxale, hein, parce que Biden au fond essayait de continuer cela avec le fameux méga deal entre les Saoudiens et Israël, qui serait d'ailleurs selon les Saoudiens même apparemment une des causes profondes du 7 octobre. Le Hamas voulant faire exploser la possibilité d'avoir une normalisation de ces relations. Donc voilà, je pense qu'il faut faire peut-être un peu attention. Là aussi, la politique change. Trump n'est pas le même.
Le
contexte n'est pas du tout le même.
Charles Sapin, est-ce que vous pensez que les populistes sont générateurs du chaos, comme beaucoup d'observateurs médiatiques le pensent, ou est-ce que ils sont plutôt le symptôme ou la conséquence de ce chaos, voire peut-être dans certains cas la solution pour remédier à ce chaos?
Je redirais exactement la même chose que Gilles. C'est vrai qu'il y a des imbrications. Déjà, quand on reprend d'un point de vue un peu historique, ou en tout cas le début de la période que nous vivons, c'était plutôt le symptôme. Il y a eu un événement extrêmement important au niveau politique qui a fait l'effet d'une bombe à détonation lente, qui est la crise de 2008. Vous avez finalement des classes populaires partout en Europe qui n'ont pu jouir des fruits de la croissance, parce qu'il n'y en avait plus, qui en ont été très mécontents, qui ont donc sont allés outre les commandements moraux des partis traditionnels pour qui ils votaient jusqu'à présent, et sont allés grossir les rangs des forces populistes. Ce qui a conduit à une redéfinition des clivages, des grandes lignes de force sur le continent. Vous n'aviez plus un clivage droite-gauche, mais de plus en plus, dans de plus en plus nombreux pays européens, vous aviez un clivage entre des forces libérales pro-européennes et des forces populistes. Selon les pays, c'était un populiste plutôt nationaliste ou un populisme socialiste ou dit de gauche qui l'emportait, mais il y avait ce nouveau clivage. Et on voit bien que tout est parti de cette crise de 2008, en tout cas que ça a été un catalyseur important. Donc les populistes étaient vraiment le syndrome de ça. Là, on voit une situation intéressante puisque on est en pleine mutation. On sort en fait de ce clivage dans un certain nombre de pays européens. On sort de ce clivage entre libéraux, pro-européens et populistes pour revenir à une forme de clivage droite-gauche. Pourquoi ? Parce que vous avez des forces de droite traditionnelles qui sont témoins soit de leur propre effondrement, soit de l'effondrement de leur allié historique, qui sont les alliés du centre, avec qui ils formaient ce bloc libéral pro-européen, et qui, pour conquérir le pouvoir ou s'y maintenir, sont contraints de faire un revirement d'alliance en tendant la main ou en s'alliant avec des forces nationalistes contre lesquelles, pendant des années, ils ont érigé patiemment une digue. Ça recompose encore une fois tous les l'échiquier européens. Il est un peu tôt pour savoir vers quoi, si c'est des solutions au chaos ou si ça va être un multiplicateur de chaos. En tout cas, ce qu'on voit, c'est un retour à un clivage droite-gauche, mais assez différent de celui qu'on a connu il y a 20 ans. C'est avec une nouvelle droite, plus radicale, plus identitaire, face à une nouvelle gauche en construction, mais qui également, elle, se place sur des sujets identitaires. Donc une droite et une gauche qui ne s'affrontent plus sur des sujets, enfin moins sur des sujets sociaux comme il y a 20 ans, mais sur des sujets identitaires.
Est-ce que c'est totalement vrai, parce qu'il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu la crise des agriculteurs il n'y a pas longtemps, et par ailleurs, ce que vous nous décrivez finalement pour le futur, ce serait un affrontement entre le Rassemblement National ou un Rassemblement National plus conservateur et identitaire, quelque chose comme Reconquête, mais Reconquête a été plutôt un échec, et finalement les insoumis, une gauche insoumise qui deviendrait hégémonique et à gauche, et avec une disparition du bloc central.
Oui, alors totalement. Le truc, c'est que, évidemment, une réalité ne chasse pas du jour au lendemain l'autre. Et pendant très longtemps, vous avez ces deux zones de confrontation que sont le social et l'identitaire qui se juxtaposent. Et d'ailleurs, l'une ne va pas totalement détruire l'autre. On va continuer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand je suis allé, par exemple, au Portugal, vous avez une force nationaliste très intéressante qui a multiplié par 10 ses résultats en 3 ans. Je suis allé voir le numéro 2 du parti. Je me suis dit, à quel moment il y a eu un boom ? Est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez vu une adhésion, une très importante augmentation des adhésions de votre parti? Il m'a dit, bah oui, je peux vous répondre tout de suite. C'est au moment où le Portugal a choisi une personne transsexuelle pour défendre les couleurs du pays à l'élection de Miss Univers. Bah voilà. Ça a joué, cette question purement identitaire, a joué, en fait, a fracturé un électorat qui était habitué à voter pour des forces traditionnelles, de droite traditionnelle. Elle a dit, ok, donc ça, c'est pas possible, je peux pas l'accepter, je me radicalise et je vais voter pour des forces nationalistes. Et quand on revient, on va reparler d'Italie, parce que c'est un pays passionnant, quand on voit l'élection de Giorgia Meloni, qui se revendique de droite, mais d'une droite conservatrice, qui est également identitaire, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence très rapide? Quelques mois plus tard, le Parti démocrate, le parti de gauche, principal parti de gauche en Italie, a élu à sa tête Elie Schlein, qui elle aussi se place en miroir, se place sur le terrain identitaire. Quand elle se fait désigner à la tête du Parti démocrate, Elie Schlein dit « Je veux l'égalité sociale et de genre ». C'est très intéressant, à mon sens, pour le clivage qui est en train de naître et qui peut-être sera prégnant dans les années à venir dans la sphère politique européenne.
Gilles Gressani, est-ce que vous croyez au retour du clivage droite-gauche, mais sur un mode hyper radical, avec une gauche woke d'un côté et une gauche identitaire de l'autre? Et est-ce que c'est vraiment souhaitable pour le débat public que les seules questions identitaires soient le cœur du débat politique?
Je pense que dans un monde en transformation vertigineuse, avoir seulement deux coordonnées, c'est pas suffisant. Il faut au moins en avoir quatre. Et donc effectivement, pour ça, je crois que la partie identitaire est de plus en plus structurante, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et quand on fait de l'économie politique, etc., on regarde en réalité toujours des questions de redistribution, etc. La question identitaire, elle est là, elle est centrale. Mais en fait, elle est imbriquée avec des questions économiques et les deux, parfois, ne peuvent pas être scindées et parfois, elles le peuvent. En fait, moi, je prends l'image d'une pièce de monnaie. Il y a deux faces. Il y a l'identité d'un côté et l'inégalité de l'autre. Et c'est les deux choses ensemble, à mon avis, qu'il faut utiliser pour comprendre les transformations politiques de nos allées-ventes.
Gilles Cressani, merci. Merci Charles Sapin. On se retrouve après une courte pause pour la dernière partie de cette élection. On verra notamment quel est le carburant de ces nouvelles formes politiques qu'on appelle les nationaux populistes, faute de meilleure définition. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité.
Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+.
Sud Radio.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, pour parler d'un monde chaotique avec une recomposition politique profonde. Deux observateurs de cette recomposition, Charles Sapin, auteur de Les Moissons de la Colère, plongé dans l'Europe nationaliste, c'est aux éditions du Cerf, et Gilles Cressani, directeur de la revue Le Grand Continent, revue qui est éditée en livre, une fois tous les semestres, à peu près, je crois, Gilles Cressani. Et donc ce numéro, ce livre, Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, c'est chez Gallimard, c'est préfacé par Giuliano da Empoli. Gilles Cressani, Charles Sapin, j'aimerais qu'on parle aussi un peu du carburant de ces nouveaux mouvements politiques, parce qu'on a fait beaucoup de sémantique et essayé de les définir, mais le plus intéressant, c'est quand même la cause de leur percée. Charles Sapin, avant la pause, vous expliquiez que les questions identitaires allaient sans doute occuper une importance considérable à l'avenir, et c'était déjà le moteur dans un certain nombre de pays de cette montée des populismes. Le premier carburant, vous en parlez dans votre livre, est-ce que c'est tout simplement l'immigration de masse ?
Bah, totalement. Moi, ce qui m'a marqué, si vous voulez, dans ce tour d'Europe, c'est que qu'importe les frontières, qu'importe les modes de scrutin ou les histoires nationales singulières, vous avez des ressorts redondants, récurrents, de toutes les forces nationalistes en Europe. Et le premier de ressort, sans conteste, est la faillite des partis traditionnels, de droite comme de gauche, à apporter une réponse pérenne à la question de l'immigration, que ce soit par l'intégration ou la régulation des flux. C'est quelque chose de très voyant. Il suffit de comparer d'ailleurs les situations de la Suède et du Danemark, qui sont deux pays comparables, bon, hormis en termes de superficie, mais qui ont pris des choix très différents sur l'immigration au tournant des années 2000. Pour schématiser, la Suède a continué d'ouvrir ses frontières. Elle se retrouve aujourd'hui avec une force nationaliste qui est la force cardinale du pays. Le Danemark a fermé ses frontières pour protéger son modèle social. Les forces nationalistes sont dans les marges politiques et le pouvoir social-démocrate a été réélu haut la main. C'est vraiment un carburant très important. Et si vous voulez, il suffit de comparer la hausse des flux migratoires de ces 10 dernières années, qui sont les 10 dernières années où vous avez eu le plus de dynamique derrière les forces nationalistes et le plus de multiplication de forces dynamiques. On voit qu'il y a une corrélation assez, assez claire entre cette question de l'immigration et la dynamique nationaliste d'un bout à l'autre du continent européen. Oui.
Au-delà de la question de l'immigration, il y a aussi les questions de genre. Vous expliquiez tout à l'heure, avant la pause, qu'au Portugal, vous aviez interrogé le leader nationaliste dont les voix ont été multipliées par 10, je crois, et qui expliquait que le moment où il y avait le plus d'adhésion dans son parti, où il avait commencé à avoir une progression, c'est quand le Portugal avait choisi un transsexuel pour le représenter dans le concours de Miss Univers. C'est ça que vous expliquiez.
Ben en fait, on le voit, il y a une prégnance nouvelle des questions identitaires dans les débats publics de beaucoup, beaucoup de pays européens. D'ailleurs, au printemps dernier, je suis allé à un grand rassemblement des forces nationalistes, le SIPAC, qui se tenait à Budapest, donc la capitale de la Hongrie. Et si vous voulez, au moment d'entrer dans ce grand raout nationaliste, vous aviez un grand panneau No Woke Zone. Tout est dit, si vous voulez. Et il y avait un drapeau de la Hongrie avec marqué dessus No Country for a Woke Man. Voilà, c'est vraiment quelque chose de prégnant, jusqu'en Hongrie où la dynamique woke, faut vraiment la chercher avec la lutte. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans les ressorts, c'est que au-delà de la question identitaire, c'est la question du mode de vie. Et il y a une question, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est cette polarisation nouvelle des sujets environnementaux. En gros,
j'allais y venir, mais très bien. Allez-y. Voilà, Gilles Grenzani partage votre avis. C'est aussi dans son livre, mais effectivement, allez-y sur le.
Très bien.
Sur
les, voilà. Mais non, mais très rapidement, c'est que ces 10 dernières années, le sujet environnemental, hormis des marges politiques, crée plutôt de l'unanimité. C'était, tout le monde voulait préserver la planète. Mmh. Le problème, c'est que si tout le monde veut préserver la planète, personne veut faire partie de ceux sur qui va reposer les sacrifices pour préserver la planète. Or, ces dernières années, il y a eu un nombre de lois importantes, notamment au niveau européen, pour en fait des lois contraignantes pour préserver la planète. Et je me suis rendu aux Pays-Bas et j'ai été très marqué des directives européennes qui ont été transformées, qui ont conduit du jour au lendemain au retrait du permis d'exploitation de plus de 3000 fermes d'éleveurs, d'agriculteurs qui étaient là parfois depuis 6, 7, 8 générations et qui étaient d'ailleurs des électeurs de force traditionnels, hein, qui se sont du coup radicalisés. Ils ont créé un mouvement. C'était le premier mouvement des tracteurs. C'était aux horizons de l'année 2019-2020. Ce mouvement s'est transformé en parti politique. En 3 ans, ce parti politique est devenu le premier du pays. Il est arrivé en tête dans les 12 provinces du pays. Il est devenu la première force au Sénat. Et finalement, comme c'était, ils étaient assez, ils ont fait des erreurs de campagne. Ce mouvement politique a dégringolé lors des dernières élections générales aux Pays-Bas. Mais ces électeurs qui s'étaient radicalisés par la cause environnementale ne sont pas retournés dans les partis traditionnels. Ils ont directement nourri Geert Wilders, c'est-à-dire le leader populiste historique des Pays-Bas, et lui a permis en fait d'arriver en tête des élections. Et on voit le même phénomène dans nombre de pays européens. Vous avez vu, c'est mobilisation de tracteurs, on l'a vu donc Pays-Bas, mais en Allemagne également.
Et en France.
En France, en Espagne, cette campagne de l'AFD, donc le parti nationaliste allemand, où c'était le diesel, c'est super.
Oui, exactement. C'est comme ça que commence le livre du Grand Continent. C'est pour ça que j'y pensais, effectivement, dans la préface de Giuliano Napoli, il explique que l'AFD faisait des panneaux diesel. Je crois que c'est même pas le diesel, c'est super. Voilà, il n'y a même pas besoin d'un slogan, c'est ce que disait Giuliano Napoli, les gens comprenaient tout de suite. Peut-être avec vous, avant de parler de l'écologie, sur la question woke, notamment aux États-Unis, on le voit aussi dans les universités américaines un peu tous les jours, encore plus depuis le conflit au Moyen-Orient, où on voit de jeunes étudiants s'aligner quasiment sur les positions du Hamas. Est-ce que cette radicalité-là a été le principal carburant et toujours peut-être le principal carburant de la recomposition politique en cours
aux États-Unis
aux États-Unis et peut-être dans le monde, parce qu'on a vu que même en Hongrie, où effectivement la dynamique woke, faut bien la chercher, c'est une crainte très importante des populations.
Très très maligne d'Orban, qui en fait veut peser en Europe parce qu'il pèse particulièrement au sein du parti républicain trumpiste. Et donc c'est un jeu à quatre bandes, effectivement. En fait, quand il met no walk zone, c'est pas pour parler du tout aux Hongrois, c'est pour parler aux conservateurs américains qui prennent l'avion pour aller par la suite interviewer Orban en disant ici ce petit pays avec qui a conservé des traditions, etc. Et là il y a un point qui, je pense, est assez intéressant. Vous savez, Orban était sans doute la personne qui a le premier inventé ce concept, cette notion qui par la suite est devenue presque mainstream dans l'espace de la droite en Europe, qui est l'Europe blanche et chrétienne. Au fond, son questionnement est assez simple, c'est aujourd'hui les nationalismes sont des nationalismes européens, donc il faut trouver des signifiants, des éléments qui soient partageables à plusieurs pays. Donc c'est pas les Hongrois contre les Autrichiens, les Français contre les Italiens. D'ailleurs, je fais en passant remarquer que le nom du principal candidat du Rassemblement National est un nom qui résonne un petit peu italien. Donc en fait, c'est pas forcément la ligne du RN aujourd'hui de reprendre la vallée d'Aoste, Milan et Turin pour en faire un fief napoléonien. C'est fini cette histoire-là. En fait, c'est une autre forme de nationalisme. Et donc l'idée d'Orban, c'était pour faire un imaginaire commun à un nationaliste, il faut prendre des choses qui fonctionnent à l'échelle du continent. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a évidemment la chrétienté. Et donc, effectivement, si vous dites Reconquête, vous parlez de la Budapest à Oslo, de Vienne jusqu'à Séville. Or, le paradoxe dans cette dynamique-là, c'est qu'en fait, Et je crois que c'est un paradoxe vraiment structurant. C'est qu'évidemment, il y a une dynamique de rhétorique civilisationnelle, mais en fait, les personnes qui portent par la suite cette dynamique, et même les personnes qui répondent à cette dynamique, ne sont pas prêts, en réalité, à changer leur mode de vie en devenant des cathos intégristes, en se confessant trois fois par jour, en faisant le carême, etc.
Mais c'est pour ça que je vous disais, vous m'avez répondu Orban, ce qui est très, très intéressant, mais moi, je vous parlais à radicalité woke. Est-ce que c'est pas un carburant, justement, et que... Orban, effectivement, il n'a pas créé une Hongrie intégriste. Il suffit d'aller en Hongrie pour voir que c'est pas une dictature intégriste. Donc, est-ce que c'est tout simplement une radicalité wokiste qui fait que les partis de droite s'y opposent tout simplement et veulent ralentir un progrès devenu fou.
Il y a un point qui est vraiment assez central, c'est que aujourd'hui, l'affect qui réunit la droite du PPE, c'est le fameux dicton la phrase attribuée à Pompidou sur le fait de ne pas vouloir emmerder les Français. Au fond, il y a une forme d'hédonisme sécuritaire fait que les gens n'ont pas envie d'être emmerdés. Mais ça, c'est assez délicat, assez compliqué, parce que ça signifie aussi qu'ils veulent pas non plus, qu'ils croient pas non plus jusqu'au bout. Par exemple, aux croisades de Meloni contre l'avortement. Ils sont pas prêts à suivre Meloni pour interdire l'avortement en Italie. Ils sont pas prêts à suivre Meloni pour... qui d'ailleurs, elle-même...
Mais elle le propose pas, ça tombe bien.
Elle en fait quand même un instrument de sa bataille nucléaire. Culturelle. Et c'est clair que à terme il pourrait y avoir des changements de règles, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ça reste un niveau qui est celui de la rhétorique. Au fond, c'est une guerre culturelle qui est sollicitée, mais qui n'est pas portée en réalité pour changer la société. Parce que en fait, le problème structurant que nous avons, c'est que nous sommes face à des transitions, des transformations, des bouleversements, mais en fait on ne sait pas comment faire pour changer la société. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte, avec la question écologique de manière très évidente, dès qu'on essaye de proposer de changer des modes de vie, immédiatement, on trouve des réactions hyper, hyper violentes, hyper puissantes. Et donc, même sur une question qui est assez majoritaire, moi, je prends toujours un exemple qui paraît parfois un peu paradoxal, mais en fait, si vous dites qu'il faut protéger les animaux et la planète, vous mettez autour de la table Brigitte Bardot et Sandrine Rousseau. Donc, c'est assez large, en fait, comme consensus. En fait, dès que vous essayez par la suite de transformer la société pour aller dans ce sens-là, immédiatement, vous crispez, vous cassez tous.
Eh bien, on casse tout, on verra ça dans le futur, on verra notamment avec le résultat de ces élections européennes. En vous écoutant d'ailleurs, on voit que le changement est tout de même progressif. Le résultat, je crois, de ces élections européennes ne renversera pas la table, quel qu'il soit. Mais en tout cas, c'était passionnant. Vous serez réinvité sans doute bientôt pour voir peut-être la phase 3 du populisme.
Avec
merci. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.
Merci. Donc la pièce finale était excellente. on a réussi à convertir Alexandre Devecchio.
Parfait, c'était top, c'était vraiment intéressant. C'est génial.
Sud Radio Marseille 95.1 et en DAB+.
Sud Radio.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main. J't'attendais pas, j'te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue. qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main. D'un jour adopté, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y'a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main. On s'aimera.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Petit Matin lundi 29 avril. Nous sommes en direct sur Sud Radio. Oui, c'est parti pour une nouvelle matinée, une nouvelle semaine. Jusqu'à 6h30, on va se retrouver tous ensemble pour cette petite matinée avant de retrouver Patrick Roger tout à l'heure, qui est de retour. Patrick Roger pour le grand matin, le grand retour aussi de Jean-Jacques Bourdin pour son interview politique tout à l'heure à 8h30 avec Manon Aubry. En tout cas, toute l'équipe de la matinale est là pour vous réveiller. En tout cas, Laurie Leclerc, dans 4 minutes désormais pour le journal, le premier journal de ce lundi matin. Clément Arion, que vous retrouvez tout à l'heure à 5h30 pour la revue de presse. Et puis John Kella, la réalisation évidemment de cette matinée. Nos questions du jour, tiens, que l'on vous pose sur notre compte Twitter, sur nos réseaux sociaux. On revient notamment sur cette déclaration du chef de l'État Emmanuel Macron qui propose d'inclure l'arme nucléaire dans le débat sur la défense européenne. Il avait déjà expliqué lors de son discours à la Sorbonne, le chef de l'État, qui proposait notamment d'avoir un dôme de fer, un peu comme ce qui est sur place en Israël. L'Europe doit-elle également se doter d'un dôme de fer nucléaire? Et bien pour le moment, vous nous dites que ça serait plutôt dangereux. Sur notre compte Twitter, à 85% d'entre vous. Et puis on revient aussi sur les manifs pro-palestiniennes. Là aussi, on vous pose une question. Je vous laisse regarder tout ça sur notre compte Twitter. On y reviendra bien évidemment tout au long de ce lundi matin. Allez, commençons cette journée tout doucement avec l'horoscope du jour, signé Bénédicte.
L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes Bélier. N'hésitez pas à être généreux avec ceux que vous aimez. Le soutien mutuel amène à la sérénité. Taureau, enfin vous soufflez. Ne faites plus de fixation sur votre budget et pensez à autre chose. Gémeaux, la détente est un investissement utile. Prévoyez cette journée tranquille qui vous permettra de vous ressourcer pour la suite. Cancer, attardez-vous plus longuement sur les sujets qui vous intéressent. Si vous ne faites que survoler vos attirances, vous aurez un sentiment de frustration. Lion, c'est la journée tout indiquée pour créer des contacts professionnels nouveaux. Votre sérieux sera clairement perçu. Vierge, tenez compte des remarques de votre entourage. Votre famille vous connaît bien et ne souhaite que votre bien. Balance, il vous faut être concret et pragmatique, même s'il est indiqué d'avoir une part intuitive nécessaire pour se diriger vers le succès. Scorpion, si vous avez pour habitude de dire ce que vous pensez, pourquoi pas, sauf que le faire avec tact est toujours mieux perçu par les autres. Sagittaire, votre sensibilité vous envahit aujourd'hui. Que vous soyez ou pas porté à la rêverie, les énergies du ciel y sont favorables. Capricorne, si une opportunité se présente, évaluez-en vite l'intérêt. Ne négligez rien, il y a des occasions qu'il ne faut surtout pas louper. Verseau, l'acuité mentale qui est la vôtre aujourd'hui est idéale pour faire évoluer votre carrière. Alors profitez-en pour avancer vos pions. Poisson, vous manquez de concentration et vous risquez de commettre quelques bourdes. Vous êtes trop agité et trop impatient.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
Allez, la météo de ce lundi matin avec Rémi André. Bon, pas vraiment de bonnes nouvelles pour ce matin, c'est pas génial. Hein. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le temps reste toujours dépressionnaire et plutôt perturbé sur une bonne partie du pays. Alors si on garde du soleil sur la Corse, des éclaircies depuis le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusque vers la Manche, sur toutes les régions depuis l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne. En revanche, le temps reste très instable avec toujours cet épisode cévenol qui donne beaucoup de pluie sur l'Ardèche, sur les Cévennes de façon générale et qui vont durer tout au long de la journée. Donc des précipitations qui en revanche sont plutôt bénéfiques sur le Roussillon qui en avait bien besoin. Quant aux températures de l'après-midi, eh bien, elles atteindront 20 degrés à Paris ou 18 degrés à Lyon,